Je recommence. Jésus et le figuier. Aujourd'hui, je veux parler un peu de un incident étrange qui s'est produit pendant la semaine de Pâques où le Christ a maudit le figuier. Un petit incident, mais suffisamment important de placer deux fois dans la Bible. La première, c'est en Matthieu. Le lendemain matin, tandis qu'il revenait en ville, Jésus eut faim. Il vit un figuier au bord du chemin et s'approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Il dit alors au figuier, « Tu ne porteras plus jamais de fruits. » Aussitôt, le figuier devint tout sec. Les disciples virent cela et furent remplis d'étonnement. Ils demanderont à Jésus, « Comment ce figuier est-il devenu tout sec en un instant ?» Jésus leur répondit, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous avez de la foi et si vous ne doutez pas, non seulement vous pourrez faire ce que je fais à ce figuier, mais vous pourrez même dire à cette colline, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. » Et cela arrivera. Si vous croyez, vous recevrez tout ce que vous demanderez dans la prière. La deuxième est un peu différente. C'est en Marc, chapitre 11. Le lendemain, au moment où il quitte Béthanie, Jésus eut faim. Il vit de loin un figuier qui avait des feuilles. Et il alla regarder s'il y a trouvé des fruits. Mais quand il fut près de l'arbre, il ne trouva que des fruits. Ce n'était pas la saison de figues. Ça, c'est intéressant. C'est un peu différent. Et à mon avis, il ne connaît pas beaucoup sur les figuiers. Mais je reviendrai. Alors, Jésus dit au figuier que personne ne mange plus jamais de tes fruits. Et ses disciples l'entendirent. Tôt le lendemain, c'est notre jour, qu'ils passent le long du chemin, ils virent le figuier, il était complètement sec jusqu'aux racines. Pierre se rappela ce qui était arrivé et dit à Jésus, « Maître, regarde, le figuier que tu as maudit est devenu tout sec. » Jésus dit alors à ses disciples, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Ayez foi en Dieu. Si quelqu'un dit à cette colline, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, cela arrivera pour lui. C'est pourquoi je vous dis, quand vous priez pour demander quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera donné. Il y a quelques différences entre les deux textes. Ils parlent de la même chose. Pour Matthieu, il semble condenser l'événement dans un jour, Marc en deux jours. Et Marc pense que ce n'est pas la saison pour les figuiers, mais c'est la même histoire. Nous ne sommes pas sûrs de la signification de telle différence. Et peut-être c'est simplement parce qu'ils sont souvenus des événements un peu différents. Et peut-être ce n'est pas de tout important. Pardon. La première fois que j'ai vu cette histoire, oui, et que j'ai essayé de le comprendre, j'ai été assez surpris par la dureté de ces actions de Jésus. Bon, il est un peu grincheux. Oui. Parce qu'un arbre ne porte pas des fruits, il a faim. Oui, hein, non, c'est un peu plus de ça, je crois. Pour mieux comprendre cette histoire, il est important de regarder le contexte. Jésus venait d'arriver à Jérusalem. Son arrivée à Jérusalem était un effet de triomphe. L'arrivée d'un roi. C'était un dimanche. Le Christ était entré dans la ville, monté sur un âne. Les gens s'étaient alignés dans les rues pour adorer et le vénérer. Hosanna au Fils de Dieu, au Fils de David, pardon. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Incroyable. Des manteaux et des feuilles de palmier avaient été entendus au travers de la route devant lui pour que les pieds de l'âne ne touchent pas le sol. Quelle entrée! C'est beau. Jusqu'après ça, il entrait dans le temple et il y vit une bazar. Ce n'était pas un lieu du culte, mais plutôt, comme le dit le Christ, une caverne de voleurs. Et il a chassé tous les changeurs de monnaie et les personnes qui vendaient les marchandises dans le temple. Et ça s'est produit. Il a resté là un petit moment, guérise et en signe, et avec une petite dispute avec les chefs de le temple, et il est parti à Béthanie pour la nuit. Puis, le lendemain, il retourne à la ville et le figuier a produit devant lui et ces événements passent. Je vais parler un peu des figuiers. Personnellement, j'adore quand Dieu utilise les plantes pour nous montrer quelque chose. Il utilise ma connaissance et mon amour pour des plantes, en fait c'est mon travail, pour expliquer ce qu'il veut dire. Les figuiers étaient tout d'abord très communs en Israël. Et on en parle régulièrement dans la Bible. Il était considéré comme un arbre très important pour les Juifs, car dans une terre très sec, nous avons déjà écouté ça ce matin, et aride, il était capable de produire beaucoup de fruits et de fournir des fruits remplis de l'énergie au peuple, sans oublier la taille de l'arbre, qui pouvait être également fournir de l'ombre. En général, il y a deux types de figuiers. Ceux qui fructifient une fois par année et ceux qui fructifient au moins deux fois par an. Nous pensons à l'arbre que nous parlons dans cette histoire, c'est une de les deuxièmes types. Un arbre qui fructifiait deux fois par an, au printemps, avant que les feuilles apparaissent, des fruits commencent à pousser et à se développer. Une fois que les fruits sont mûrs, les fruits sont mûrs pour être mangés. Ce sont généralement des fruits assez petits et plus durs, mais non moins agréables. Pendant l'été, l'arbre générait alors plus de fruits qui sont protégés du soleil, et à l'automne, nous aurons une grande récolte. La peculiarité de ce type de figue est qui, si elle n'a pas des fruits au printemps, elle n'aura pas non plus en été. Jésus le savait, évidemment, et comme c'était le printemps, c'est le temps pour les premiers fruits, le temps de la Pâque, et voyant l'arbre plein de fruits, il s'en approchera en s'attendant à trouver des fruits. L'aspect extérieur de l'arbre montrait qu'il était plein de fruits et des fruits mûrs en plus. Le figuier symbolise beaucoup plus que le fruit. La présence d'un figuier fructueux était considérée comme un symbole de bénédiction et de prospérité pour la nation d'Israël. L'absence de fruits sur l'arbre, suivie de sa mort, symbolise le jugement et le rejet. Si nous gardons à l'esprit les événements qui se sont déroulés les jours précédents, nous pouvons mieux comprendre pourquoi cela s'est produit. La marche triomphale vers Jérusalem, avec toute l'excitation, les louanges et l'adoration, étaient une expression extérieure de la foi juive. Je ne sais pas comment déclarer ça différemment. En anglais, nous allons le lire « manifestation », mais en français, c'est un peu différent. Mais je suis sûr que cela ne se traduit pas... Lorsque nous regardons les événements des jours suivants, à la lumière de cette arrivée triomphale, à Jérusalem, nous commençons à demander qu'est-ce qu'il a passé. Tout le monde se réjouissait, louait et adorait Jésus, mais ensuite, il s'appelle à sa crucifixion. Il y a 5 jours qui passent et ses regards ont changé complètement. Je ne crois pas qu'ils s'étaient compris ce qui se passe, car ils étaient aveuglés par leur propre action. L'autre événement qui précède la malédiction de l'arbre est la purification du temple. Il n'est pas étonnant que Jésus est en colère. C'est normal. Il y avait une apparence extérieure de la religion, mais une fois que vous regardiez au-delà de l'extérieur, il n'y avait rien. Il y avait une mort spirituelle en Israël, un peuple qui semblait très religieux à l'extérieur avec toutes ses cérémonies et ses sacrifices, mais qui était spirituellement stérile. Ça, c'est quelque chose que Jésus commence à dire. Tout comme l'arbre, il donne l'apparence extérieure d'être fort, saine et fructueux. Mais à regarder de plus près, il n'avait aucun fruit. Le symbolisme du figuier dans l'Ancien Testament est assez répandu et je crois que les disciples auraient très vite compris la signification de tel acte. Ils ne demandent pas pourquoi, ils demandent comment. Il a compris. Il ne demande pas pourquoi, mais comment. Je ne suis pas un expert de la culture ou de la religion juive et je vais laisser mon commentaire à ce point, à ce stade. Et je le demande cette question. Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Si cette histoire était si importante pour avoir été inclue dans la Bible, quel message nous transmet-elle aujourd'hui? Ça, c'est le plus important. Dans une église à laquelle je appartenais en Afrique du Sud, une de les anciennes m'a un jour choqué en déclarant avec force que Dieu déteste la religion. Au début, je pense, nous sommes la religion. Il m'a fallu un peu de temps pour comprendre ce qu'il voulait dire. Je le vois, la définition pour la religion, et j'ai deux ici. Le premier en anglais. The belief in and worship of a superhuman controlling power, especially a personal god or gods. C'est presque pareil en français. Croyance humaine à ses rituels et dogmes. Attitude qui découle et de cette croyance. Je pense que cette définition passe à côté de la réalité. Pour nous, ça, c'est, nous ne sommes pas dans cette définition. Et si ça, et nous, je déteste aussi. Je déteste religion si ça est vrai. Le christianisme est bien plus que la croyance et l'adoration de Dieu. La religion, c'est venir à l'église en dimanche, asseoir dans une chaise et de voir les gens, de louer un peu et d'écouter le message et après quitter la salle. C'est comme ça? Ça, c'est la religion. D'être un vrai chrétien, c'est bien plus que cela. Vous venez à l'église dimanche. Oui, vous prenez une chaise. Tu loues. Tu écoutes. Mais tu changes ta vie. C'est un choix. Dieu parle avec toi chaque dimanche, chaque jour, dans chaque action, dans l'église. Ça, c'est la différence. Vous êtes prêt de changer ta vie, votre vie, vos vies, d'être plus comme Jésus qu'avant. Si tu quittes cette salle avec un changement de mentalité, de connaissance de votre vie, il y a un problème. C'est que de religion. C'est nécessaire d'être dans une groupe de vie. Ce n'est pas le pub de groupe de vie. Mais tu as besoin d'être là parce que Dieu parle tout le temps. Et dans un petit groupe, c'est plus facile d'apprendre plus de choses, d'écouter Dieu mieux et de changer vos vies. c'est d'être comme notre Père. Mais quel est le rapport avec les figuiers? Sommes-nous des arbres vides qui ressemblent des chrétiens, qui passent par des mouvements religieux, mais ne changent jamais? Ou sommes-nous des chrétiens chargés des fruits qui tentent de reprendre la femme des gens? L'histoire de figuier nous dit que si nous sommes infructueux, nous serons jugés. Jacques 2, 26 dit « Sans la foi, les œuvres sont mortes. » La religion, c'est pourquoi Jésus a parlé de la foi après la mort de l'arbre. La religion n'est pas qu'une croissance et louange et une culte. Mais pour être chrétien, il faut aussi avoir la foi. Mes amis, portez-vous du fruit dans votre vie aujourd'hui? Comment pouvez-vous savoir si vous pouvez vous porter des fruits? Lorsque vous vous retournez, regarde par-dessus votre épaule votre vie passée où vous avez été. Vous pourrez voir le fruit que vous avez porté. Encore une fois, vous allez probablement me demander, mais comment voir le fruit? Comment pouvez-nous savoir? Je ne veux certainement pas être jugé. C'est le mauvais de fruit. Savez-vous ce qu'est un fruit? À quoi il sert vraiment? Pourquoi un figuier produit-il des fruits? Pourquoi toutes les plantes produisent-elles des fruits? De nombreuses plantes produisent ces merveilleux fruits que nous, les humains, aimons manger. Aussi les oiseaux, les animaux, etc. Lorsque nous mangeons, en laissant les graines sur le sol, si elle est atterrie sur un bon sol, elle va pousser et produire ses propres fruits. Pour une plante, elle produit des fruits afin que son espèce puisse continuer à survivre. Ça, c'est le but des fruits pour la plante. Quand vous regardez par-dessus votre épaule et que vous regardez votre vie, que voyez-vous? Voyez-vous les fruits que vous avez donnés aux gens prendre de la graine en eux et se reproduire? Laissez-moi vous donner un exemple avec l'un des fruits, pas le même sujet, de l'esprit. Lorsque vous avez semé l'amour dans la vie de quelqu'un, tu fais quelque chose pour quelqu'un. La graine de cet amour a-t-elle pris des racines dans sa vie? Souvenez-vous que nous sommes appelés à faire, pour aller à faire des disciples de toutes les peuples, de toutes les peuples, de toutes nations du monde. Nous avons un impact sur les gens qui nous entourent en utilisant des dons de Dieu nous a donnés. Si nous nous lisons ces noms correctement, les gens nous regarderont et diront, je veux ce qu'il a. Je veux aussi être changé. Les graines que nous sèmons dans la vie des gens commencent à prendre racine et à pousser. Et si on le permet d'être arrosé et nourri par la lecture de la Bible et par une relation personnelle avec Dieu, elles grandiront. Et vous verrez ce que vous avez sémé porter ses propres fruits. Mes amis, portez-vous de fruits dans votre vie aujourd'hui. Mais je n'ai pas le temps. Je dois travailler et puis je suis fatigué le soir. Oui, c'est normal. J'ai fait la bonne action à l'église dimanche. Non, c'est pas ça. J'ai appris un nouveau mot cette semaine. Il s'agit du mot hébreu abad. Je ne suis pas sûr que vous avez déjà entendu ce mot, mais c'est le premier mot utilisé dans la Bible pour parler du travail. Il a plusieurs significations et est principalement utilisé pour le travail et le service. Mais le mot a aussi le sens d'adoration, de louange. En un seul mot, nous avons le travail et la louange dans un seul mot. Et c'est le premier mot dans la Bible qui parle de travail. Le travail et la louange. Incroyable. Quel fruit portez-vous aujourd'hui dans votre vie professionnelle? Nous passons la plupart de nos heures de chaque jour au travail. Quel fruit portons-nous? Sommes-nous simplement en train de donner un grand spectacle dans nos vies? C'est une chose de ne porter des fruits aux saisons, c'est compréhensable, mais ne peut pas porter des fruits quand on fait semblant d'en avoir, nous devrions être maudits. Je mentionne les saisons. Nous, comme les plantes, des arbres, passons par différentes saisons. Nous pouvons avoir des saisons d'hiver où il n'y a pas de vie. Le figuier, elle n'a rien. Jusque les branches, c'est tout, dans l'hiver. Nous sommes en sommeil et nous ne produisons pas des feuilles, encore moins de fruits. Le printemps arrive et nous commençons à fleurir et à porter de nouveaux fruits avec des nouvelles feuilles. Le fruit mûrit en été et nous avons visiblement grandi. L'automne arrive et nous perdons nos feuilles et nous faisons quelque chose que vous ne pouvez pas voir. Nous renforçons nos racines pour nous permettre d'entrer dans la prochaine saison de croissance. Ça, c'est l'automne. Il y a une saison pour chaque chose. Je parle en tant que les individuels, mais c'est la même pour l'Église. En tant qu'Église, produisons-nous de fruits ou créons-nous un environnement où les gens aiment venir être ensemble, boire un café, admirer les beaux murs. Ouais, c'est super. Non. C'est possible d'être très, très occupé dans l'église, de faire les choses. Mais si on ne produit pas les fruits, ça ne sert à rien. Le fruit, nous produisons, s'émet-il des graines dans la vie, non seulement de la congrégation de cette église, mais aussi en dehors de cette église, dans notre communauté et au-delà. Ça, ce n'est pas une question pour moi, ce n'est pas une question pour les anciens, les responsables, diacres. C'est une question pour nous tous, parce que nous sommes l'Église, pour nous les fruits. Je vais terminer par ceci. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à être un groupe de personnes qui changent volontiers leur vie pour rassembler davantage au Christ. Nous portons du fruit en fonction de la saison dans laquelle nous nous trouvons, à la fois personnellement et collectivement. Nous devrions porter de fruits en abondance et nous devrions être connus pour être une source de fruits. Non seulement pour notre famille ici dans l'Église, mais aussi pour les personnes extérieures que nous connaissons ou ne connaissons pas. Nous devons avoir l'intention de donner du fruit afin de semer dans la vie des autres, afin qu'ils soient bénis, qu'ils réalisent que le Christ est notre Seigneur et notre Sauveur et qu'il est réel et pertinent. Que la graine que nous sèmons apporte une nouvelle vie aux personnes qui nous entourent, dans nos communautés et sur nos lieux de travail. Amen.